Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Émilie Leclerc, actrice, créatrice de théâtre, et au cours de la dernière décennie, j'ai souvent eu le plaisir de travailler avec Théâtre La 16e. C'est donc un très grand honneur pour moi d'animer cette courte série de podcasts. Avant de vous présenter notre première invitée d'aujourd'hui, j'aimerais reconnaître le fait que le Théâtre La 16e et moi, nous sommes situés sur les terres ancestrales et non cédées des Premières Nations Squamish, Musqueam et Tsleil-Waututh. On est très reconnaissants d'avoir la chance de vivre, de travailler et de créer ici. Alors, pour cette petite série de podcasts, on vous propose deux courtes conversations autour de Violette, une production de la compagnie montréalaise Joe, Jack et John, qui sera présentée par la 16e du 28 janvier au 6 février prochain au Studio 16. Donc, d'abord, pour parler des aspects artistiques et du processus créatif de Violette, j'accueille aujourd'hui Catherine Bourgeois, qui est la directrice artistique de la compagnie Joe, Jack et John. C'est aussi la metteuse en scène et la scénographe de Violette. Allô, Catherine!
Allô, Émilie!
Ça va bien?
Oui, ça va bien, et toi?
Oui, super! On s'est rencontrés il y a environ 3 ans, je pense, quand?
Oui, voilà, 3 ans à Ottawa.
Ouais, autour d'un atelier de création.
Voilà, donc c'était pendant le festival Zone.
Zone théâtrale, effectivement. Et comme je disais tantôt, j'ai jamais vraiment eu la chance d'échanger avec toi sur ton travail avec Joe, Jack et John. Fait que ça me fait vraiment plaisir de le faire aujourd'hui, virtuellement, avec toi, à distance sécuritaire.
Oh, il y a plusieurs milliers de kilomètres.
Oui, c'est ça. Alors, je comprends que tu es très près de la compagnie Joe, Jack et John. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton processus artistique personnel et comment tu en es venu à cofonder la compagnie en 2003?
Ben, moi, je suis pas quelqu'un qui vient du jeu, contrairement à souvent les gens de la mise en scène sont des personnes qui sont issues du jeu. Donc, j'aime davantage la scénographie. Donc, j'ai fait des études en scénographie, puis après ça, une maîtrise en mise en scène. Puis, j'ai fondé la compagnie dans un but, en fait, de créer, comme de vraiment faire des créations collaboratives. Pour prendre parole, pour si on veut aussi éviter le texte, donc pour vraiment faire comme naître la parole, donc avec l'écriture de plateau, avec des groupes qu'on dit inclusifs, donc des acteurs, des actrices qui sont issus de différentes communautés, dont des artistes en situation de handicap. Donc c'est vraiment ça le mandat de la compagnie, donc de faire des créations collectives avec des équipes inclusives.
Et c'est parti d'où ce besoin-là pour toi d'inclure des gens qui ont des différences et je dis bien des inclure, mais pas juste des inclure, de créer avec des gens différents. C'est venu d'où pour toi ça?
Mais j'avoue que j'ai un grand intérêt pour l'altérité, mais je trouve aussi que cette idée-là, tu sais, de donner la parole, de prendre parole, de pouvoir comme ensemble, avec différentes perspectives, différents horizons, différents points de vue, c'est créer des œuvres originales qui réfléchissent sur certains enjeux contemporains, était comme, c'est en fait un désir purement égoïste que de me retrouver en salle de répétition avec des gens, tu sais, qui viennent de différents horizons pour comme nourrir. Je trouve que à la limite, c'est une diversité d'idées, d'esthétique, de paroles est vraiment nourrissante pour la création. Donc voilà, c'est égoïste que de dire on se donne un mandat où est-ce qu'on va comme prendre le micro, mais le passer le micro aussi pour pas comme imposer ma vision, c'est sur des vécus autres qui sont pas les miens non plus. Donc cette idée-là de l'écriture collective, de l'écriture de plateau était vraiment au centre de cette au cœur, en fait, de l'ADN de notre fondation comme compagnie, parce que on avait le goût d'entendre d'autres points de vue, d'autres vécus, puis pas nécessairement, justement, imposer nos visions sur le vécu des autres.
J'imagine aussi que d'un point de vue personnel et professionnel. Il y a une richesse aussi de travailler avec des gens qui ne nous ressemblent pas nécessairement ou qui viennent d'horizons culturels différents ou qui ont des mondes différents. Il y a un enrichissement, veux, veux pas, qui se fait à créer avec des gens différents. Est-ce que tu sens que finalement, vous vous êtes taillé une place dans l'écosystème théâtral au Québec et ailleurs? Et selon toi, est-ce que ça l'a pris des efforts supplémentaires quasiment pour en arriver là?
Oui, oui, à toutes ces questions-là. Je pense que, tu sais, c'est sûr que maintenant, à Montréal, on a notre place. On est compagnie résidente à l'Espace Lim, qui est un lieu de création expérimentale, mais de prise de parole forte. Donc, on a maintenant, tu sais, on fait partie de ce bateau-là, donc on est très fiers de ça. Mais c'est sûr que ça a été, je pense que notre premier projet qui a été diffusé dans un théâtre, c'était Just Fake It, on avait 8 ans. Donc avant ça, on a fait des fonds de piscine, des bars, des lofts industriels parce qu'on n'arrivait pas à avoir à être programmé dans des saisons théâtrales. Donc j'avoue que oui, ça a été extrêmement difficile d'être reconnu comme une compagnie professionnelle. Il y avait le stigmate ou le préjugé envers le fait que nos équipes étaient inclusives sur le, en fait, sur le fait qu'on faisait probablement de l'art-thérapie ou plus de l'art communautaire. Donc, il a vraiment fallu comme juste continuer à travailler tout le temps, puis de faire du travail de qualité pour arriver à prouver ou en fait à contrer ces préjugés-là.
Oui, donc vous avez été des pionniers, puis vous êtes battus, dans le fond, pour en arriver à avoir ce statut-là quasiment au cœur de la communauté au Québec et ailleurs. Est-ce que vous sentez qu'il y a d'autres compagnies qui s'inspirent de votre travail et qui vous ont suivi? Puis aussi, je suis un peu curieuse au plan personnel, il est où le feu, tu sais, cette passion où on se dit, mon Dieu, on fait des fonds de piscine, on fait des bars, mais on continue à avancer, tu sais, où est-ce que tu as été capable de puiser cet intérêt et ce désir brûlant-là de continuer d'avancer?
Oui, mais c'est une excellente question. J'avoue que c'était comme... C'était souvent le feeling qu'on avait, tu sais, qu'on avait le vent d'en face. T'sais, qu'on ne l'avait pas dans le dos, puis que fallait, t'sais, juste comme revenir à notre urgence de prendre parole, revenir à notre désir de prendre parole, à ce côté artivisme-là aussi qu'on a toujours eu comme compagnie, c'est-à-dire que l'art est là pour changer les choses, pour changer la société, pour faire évoluer. Donc, je pense que c'était toujours de revenir à notre nécessité de prendre parole en tant que groupe, en tant que qu'individu artiste, mais puis après ça d'avoir foi, tu sais, de garder la foi que on y arriverait, puis on serait comme davantage accepté. Puis je veux dire, de projet en projet, il y avait des petits pas qui étaient accomplis. Puis dans les dernières années, il y a eu des grands pas. Le vent a tourné. On le sent partout par rapport à des paroles qui ont été marginalisées et exclues, que ce soit au niveau de la diversité culturelle, de l'autochtonie, de tout ça. Il y a comme vraiment un vent qui a tourné de façon assez drastique. C'est pour le bénéfice puis la richesse de nos plateaux puis de nos communautés. Donc, yay!
Ouais! Yay! Tellement un gros yay parce que à cause de ce vent-là puis aussi de continuer d'avoir foi, vous allez venir nous présenter le spectacle Violette à Vancouver. Donc, c'est nous qui aurons la chance d'avoir la première mondiale de ce spectacle-là. Fait que merci d'avoir bravé tous les vents et marées. Avant qu'on parle un peu plus en profondeur de Violette, je suis vraiment curieuse de savoir d'où est venu le nom Joe, Jack et John.
Mais je pense qu'on voulait pas avoir on voulait cette idée-là un peu de trois noms anonymes qui se rassemblent puis qui créent des trucs puis qui refont le monde. On voulait pas nécessairement avoir le mot théâtre, production dans notre nom de compagnie. Mais plus l'idée d'avoir une compagnie de déménagement, t'sais, une compagnie qui déménage. Donc, Joe, Chuck et John, ouais, voilà, c'est comme... c'est sûr que par rapport à... Je sais pas, avec le recul, des fois, c'est un nom que les gens ont de la misère à retenir. Donc, Puis peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, ça serait plus Josette, Jackie et Joanne aussi, parce qu'on est, comme, on est quand même une compagnie qui se définit aussi par notre féminisme, puis par la mise de l'avant de paroles féminines, féministes. Donc, voilà. Donc, je ne leur ferai pas, on ne leur fera pas, mais c'est... on déménage. Donc, on déménage.
Donc, puis je sais que vous avez une façon de créer qui s'inspire de l'écriture collective, l'écriture de plateau. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne viennent pas du monde du théâtre, est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que tu entends par écriture de plateau, puis pourquoi c'est important pour vous de travailler de cette façon-là?
Mais, l'écriture de plateau, l'écriture collective, c'est-à-dire qu'on rassemble un groupe. Souvent, je rassemble des gens qui auraient quelque chose à dire par rapport à une thématique particulière. Puis, on travaille en brainstorm, en improvisation. C'est comme un genre de ping-pong entre, c'est ça, des sessions d'improvisation, des rencontres et un genre de transcription de verbatim pour tranquillement faire naître des scènes, un propos et tout. Donc, tu sais, c'est vraiment une écriture qui se nourrit des idées, des paroles, des univers qui sont rassemblés dans la salle de création. Donc, c'est pas une écriture qui est comme qui est portée par un auteur ou une autrice uniquement, non, mais vraiment par la compagnie, par le groupe qui est rassemblé. Un désir aussi de permettre à ces artistes-là qui sont souvent marginalisés par le milieu théâtral ou par le milieu artistique en général, de pouvoir réellement prendre parole puis de pouvoir donner leur idée, leur point de vue, faire naître des personnages. Donc, c'est comme une certaine façon de décolonisation de ces prises de parole-là qui ne passent pas par la vision d'un auteur sur un vécu X. Voilà.
Est-ce que le processus de création a été différent pour Violette ou ça a été similaire à vos œuvres précédentes?
Mais ça a été différent parce que Violette implique une partie en réalité virtuelle. Donc, c'est un tournage de film qui est en 360. Donc, quand on parle de tourner un film, c'est pas comme un truc qu'on improvise comme disons, quand on monte une pièce de théâtre. Donc, c'est une écriture qui est beaucoup plus précise par rapport à couper, changement de plan, etc. Donc, il a fallu vraiment... On a travaillé avec une autrice, Amélie Dumoulin, mais on est vraiment parti encore une fois quand même de cette idée-là de la rencontre. On s'est inspiré aussi de plusieurs rencontres qu'on a faites à travers les 15 ans d'histoire de la compagnie là, quand on a commencé le projet, c'est-à-dire qui est la réalité de plusieurs femmes qui sont en situation de handicap intellectuel, qui est celle de l'abus sexuel. Donc, c'est à travers nos 15 ans de vie de compagnie, on avait rencontré plusieurs artistes, plusieurs citoyennes, concitoyennes qui avaient vécu un tel drame. Donc, pour nous, c'était comme important de... C'était comme on avait un désir de parler de ça. Donc, il y a eu des brainstorms, il y a eu des discussions, il y a eu des lectures, relectures et tout ça, mais c'est une écriture qui a été comme quand même moins collective, moins en écriture de plateau que ce qu'on est habitué de faire habituellement à cause du médium, vraiment.
Mm-hmm. Mais c'est vraiment une thématique que vous avez choisie à cause des réalités personnelles des artistes que vous côtoyez déjà dans le fond. Oui. Donc, vous êtes comme un porte-parole de qui aide à amplifier un peu ces voix-là qu'on n'aurait peut-être pas entendues autrement.
Bien, c'est bien dit. C'est bien dit, oui. C'est bien dit. Mais c'est sûr que c'est pas... Tu sais, la question qu'on aborde dans Violette, c'est pas une question qui est souvent abordée, en effet. C'est sûr qu'avec les mouvements d'agression non dénoncée, de MeToo dans les dernières années, on en a entendu parler plus à grande échelle au niveau de la société, de nos communautés plus at large. Mais dans le cas des femmes qui sont en situation de handicap intellectuel, au cours de leur vie, c'est 80-90% qui vont avoir vécu un abus sexuel. Puis chez les hommes, c'est jusqu'à... Les statistiques, c'est autour de 50% d'entre eux. Donc, c'est vraiment une réalité morbide et dramatique dont on n'entend pas parler, dont on a besoin de parler davantage, d'ouvrir, en fait, de libérer là, une certaine parole par rapport à ça.
Et là, pour cette création-ci, vous avez choisi la réalité virtuelle. Non? Tantôt, tu me parlais de filmer. Ben, je suis curieuse, en fait, quand on filme quelque chose et que ça va être en 3D ultimement, est-ce que ça change quelque chose au point de vue de comment vous captez l'image ou c'est un montage qui se fait en post-prod, comme on dit?
C'est pas en 3D, parce que c'est pas nécessairement la technologie 3D, mais c'est en 360, donc c'est 360 degrés, donc si le spectateur, la spectatrice se tourne la tête, bien, il y a le décor continue, si on veut, en arrière, donc il y a quelque chose de très englobant. Donc une fois que le casque est mis, c'est le décor fait 360 là, autour du spectateur, de la spectatrice. Donc, ça, c'est comme... En fait, c'est deux caméras qui couvrent 180 degrés.
Ah.
Puis qui, après ça, sont cousues ensemble, si on veut. Là. Il y a comme les stitches qu'on appelle en bon français. Donc, il y a des coutures sur chaque côté des 180 degrés pour donner cette illusion-là du 360. Mon intérêt par rapport à la réalité virtuelle vient de... C'est un médium, tu sais, qu'on appelle le médium de l'empathie. Ça veut dire que tout d'un coup, tu peux te retrouver dans les souliers d'une personne qui visite un camp de réfugiés. Ou tu peux, je veux dire, comme avec ces caméras-là, tu sais, on filme le point de vue à partir du point de vue du spectateur. Donc, le point of view, le POV, si on veut, du spectateur, de la spectatrice. Donc, c'est quand même au niveau de la dramaturgie, c'est un défi. Mais ce qui m'intéressait, c'était cette rencontre-là qui pouvait avoir lieu, justement. Donc, en plaçant la caméra comme étant les yeux de la personne du public, cette rencontre-là intime qu'il peut y avoir avec une actrice ou un personnage qui, tout d'un coup, te parle à toi. Donc, c'est pas nécessairement de mettre le spectateur, la spectatrice dans les souliers d'une personne qui vit ou d'une femme qui vit avec un handicap intellectuel, pas du tout, parce que ça, il y avait comme une transposition avec laquelle j'étais pas vraiment à l'aise, mais c'est vraiment plus de permettre une rencontre intime, donc avec le personnage de Violette dans ce cas-ci, puis donc de vraiment faire comme si la personne du public est avec Violette dans sa chambre, assise sur son lit. Puis voilà, donc ça c'est la scénographie et ça c'est comme une petite cabine. On a filmé dans une chambre à l'échelle régulière, puis après ça, la scénographie comme telle qui va avoir lieu à Vancouver, ben, qu'on va monter à Vancouver, c'est comme l'échelle une demi si on veut de cette chambre-là. Donc le spectateur, la spectatrice arrive, rencontre Violette, puis s'assoit sur le lit de Violette, puis après ça, met le casque et se retrouve dans cette même chambre-là, mais à plus grande échelle.
OK, donc, on parle de réalité virtuelle, d'expérience théâtrale, donc il y a une actrice là, pour le spectacle.
Oui.
OK.
Oui, c'est une expérience mixte. Donc, il y a l'accueil par Violette, qui est interprétée par une actrice, puis après ça, la même Violette poursuit, en fait, la narration, l'œuvre, tout ça, la pièce, dans le casque 360, pardon. Donc, il y a vraiment, j'avais un intérêt entre faire un pont, tu sais, ou faire une genre de jonction entre la réalité puis l'aspect réel puis l'aspect virtuel, donc ça soit vraiment fluide.
OK, fait Violette, c'est vraiment une expérience théâtrale pour un seul spectateur, une seule spectatrice, puis ça allie théâtre et réalité virtuelle. Mais là, je me dis, peut-être qu'il y a certaines personnes qui se disent « Ah, moi, j'ai pas vraiment envie d'aller voir une pièce et qu'on me demande de participer. » Alors, est-ce que tu peux nous expliquer jusqu'à quel degré les gens qui viennent vivre cette aventure théâtrale-là vont être appelés à jouer un rôle, dans le fond, dans Violette?
Ah, c'est minime, c'est tout doux, c'est vraiment tout doux et tout petit. C'est-à-dire que la personne va arriver puis elle va être accueillie par Violette, soit par notre Violette francophone ou notre Violette anglophone, parce que l'œuvre est disponible avec... Bon, on a deux actrices différentes, donc puis l'œuvre est disponible dans les deux langues. Puis il y a, dans le fond... Violette accueille, pose peut-être quelques petites questions comme « Quelle couleur est ta chambre? » Donc, ou des petites questions tout petites, minimes comme ça, mais surtout, c'est de permettre un premier contact, pour que Violette commence à parler un peu d'elle, du contexte, mais aussi d'amener le spectateur, la spectatrice à s'installer, puis à mettre son casque, puis à... Donc tout ça est guidé par le personnage de Violette. Donc c'est vraiment... c'est pas très impliquant, il y a personne qui va être sur la sellette et devoir performer le rôle de leur vie là, devant notre actrice, non.
Ben, puis là, vous avez créé une pièce de théâtre pour une seule personne, dans le fond, où on peut respecter la distanciation sociale, où c'est COVID-safe, comme on dit. Avez-vous commencé à créer cette pièce-là en mars 2020?
Non, c'est ça, ça fait comme... avant la première qui aurait dû avoir lieu au printemps dernier à Montréal, puis qui n'a pas eu lieu, ça faisait déjà 3 ans, donc, le spectacle. Donc, nous, on est vraiment là-dedans pour faire « big cash », comme on dit. T'es un spectateur à la fois, donc... non, c'est vraiment pas... c'était comme une expérience parce que tout le monde nous disait, genre, « Mais voyons donc, c'est pas business. C'est quoi cette histoire-là? » Genre, c'est vraiment, c'est trop une petite jauge de rien, une personne à la fois. Mais bon, là, après ça, on se retrouve à pouvoir aller, tu sais, ça se retrouve en ce moment à ouvrir certaines portes parce qu'en effet, tout est, comment t'as dit ça? COVID-proof?
COVID-safe.
Tout est COVID-safe parce que donc il y a un 2 mètres qui est respecté, là, dans l'accueil. Après ça, l'accueil dure environ 5-6 minutes. Puis après ça, le spectateur, la spectatrice est seule dans sa petite cabine avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Puis tout ça, après ça, entre chaque personne, tout est nettoyé avec la super technologie d'une clean box avec des rayons UV dessus, tout ce qu'il pourrait y avoir. Des sprays, du steam. Donc, tout est hyper COVID-safe. Voilà.
Oh, wow! Donc, vous avez, il y a 3 ans, les gens se disaient, mon Dieu, vous ferez jamais d'argent avec un spectacle, une personne à la fois. Et là, vous allez vous retrouver en 2021 à être un des seuls spectacles à pouvoir être produit. Donc, une chance que vous avez écouté cette passion et cette voix-là de vouloir faire ce spectacle-là, parce que, tant mieux, on en a besoin. Puis, on en a besoin aussi de sortir un peu de nos bulles personnelles, autant au niveau de notre vie physique à la maison que de notre vie mentale. Donc, se plonger dans la bulle de quelqu'un d'autre et de rencontrer Violette dans sa chambre, ça a l'air d'être une super aventure théâtrale à vivre absolument. Même si c'est peut-être une thématique un peu plus lourde, est-ce que tu peux... On parle, quand on décrit Violette, on parle de magie, chose qu'on a tous besoin présentement. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça, de cet aspect magique-là, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi au plan esthétique de Violette?
Mais oui, je suis contente qu'on puisse aborder un peu ce sujet-là, parce que c'est vrai que je suis là avec mes statistiques, puis l'importance de parler de ce sujet-là, qui est un sujet lourd, en effet. Mais au-delà de ça, c'est sûr que nous, on n'a pas traité ça de manière graphique ou de manière violente, ou on n'a pas rien souligné. Donc, c'est vraiment un conte qu'on pourrait, en effet, dire un certain réalisme magique. Parce que Violette est dans sa chambre, puis elle est comme confinée dans sa chambre parce qu'elle ne veut pas en sortir parce qu'elle a peur un peu de l'extérieur. Donc, elle invite des gens, une personne à la fois, à venir s'asseoir, puis elle peut lui raconter son histoire. Donc, c'est ça la base un peu de la prémisse là, du spectacle. Puis donc, chaque personne qui est là est un peu le témoin de comment elle raconte son histoire. Puis le fait de raconter son histoire, ça l'aide à passer par-dessus, mais son histoire implique un personnage imaginaire qu'elle s'est créé pour justement passer par-dessus le confinement puis l'isolement de sa chambre. Donc, c'est une femme corneille qui vient, mais qui est un peu comme sa conscience intérieure, qui des fois la shake ou la brasse un petit peu. Mais on se transporte dans une forêt, un paysage de neige. Il y a différents, comme, je ne sais pas, un conte réaliste graphique du tout. C'est vraiment dit aussi à travers un univers qui... qui a une certaine naïveté, qui a une certaine magie. Puis donc, ce dialogue-là avec la femme corneille, qui est parfois inquiétante, parfois comme un peu mystérieuse et tout, mais qui est comme un genre d'invité qu'on veut pas nécessairement, mais qui est qui dans nos mythologies intérieures, comme on l'a vécu tout le monde en confinement depuis plusieurs mois, on peut s'inventer parfois des personnages, des situations. Puis donc, c'est dans ce sens-là que c'est comme ça qu'on l'a traité avec Violette. Donc, il y a vraiment une poésie puis une légèreté malgré la lourdeur, en effet, du sujet.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que Violette est une production de Joe, Jack et John, sera présentée au Théâtre de la 16e du 28 janvier au 6 février au Studio 16, ici à Vancouver. La semaine prochaine, j'aurai la chance de m'entretenir avec Alex Do, qui va nous parler de l'utilisation des nouvelles technologies, dont la réalité virtuelle au théâtre. Nous avons très hâte de vous accueillir au Studio 16 pour la production de Violette. Vous pouvez retrouver toutes les infos du spectacle en lien de ce podcast et aussi sur le site web du Théâtre La 16e au www.16e.ca. Merci Catherine Bourgeois, directrice artistique de Joe, Jack et John. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec moi aujourd'hui.
Merci Émilie, puis à très bientôt.
Oui, on se voit bientôt au Studio 16.